Ce matin, on fait une pause dans notre série sur le livre d'Exode pour revenir sur la thématique de l'année. On s'est donné une thématique pour l'année, c'est connecter pour grandir. Et comme on a notre réunion annuelle, on s'est dit, on prend une pause, on revient sur ce thème-là, on veut l'explorer davantage. C'est quoi connecter pour grandir? Bien, si je veux grandir dans ma foi, j'ai besoin de deux types de connexions, deux types de relations. J'ai besoin de connecter constamment à Christ, constamment avec Dieu, être près de lui, m'investir dans ma relation avec lui. Et j'ai besoin de connecter avec l'Église. J'ai besoin d'expérimenter dans l'Église des relations significatives qui m'aident à grandir. J'ai besoin de gens avec qui je peux aller me confier. Ce matin, j'étais encore en train de prier, puis je pensais à tellement de personnes qui ont expérimenté l'Église en ligne pendant la COVID et qui se disent, bah, écoute, moi, ça me convient comme version de l'Église. C'est pas l'Église, ça. C'est pas du tout l'Église. C'est un petit peu comme si tu me disais, moi, j'aime les arts martiaux, fait que je joue à Mortal Kombat, puis écoute, je serais prêt à attaquer n'importe qui. Yeah, sure. Sure, lâche ton jeu vidéo, va-t'en dans la réalité. Ou tu sais, tu fais juste pratiquer le golf, juste au jeu vidéo, puis là, tu dis, écoute, je suis prêt, je m'en vais gagner un super match, ça va être incroyable. Hero Guitar, Guitar Hero, t'es un pro, puis tu vas être dans le louange la semaine prochaine. Non, tu sais, non. Ça ne marche pas comme ça. Bien, l'Église en ligne, c'est autant l'Église que ça, mais pas plus que ça. Dans le sens que je peux apprendre des petits principes sur le golf en jouant sur mon jeu vidéo, ça peut aller jusqu'à un certain point. Je peux apprendre quelques principes sur les arts martiaux en regardant des jeux vidéo ou en jouant à des jeux vidéo, mais non, tant que tu ne l'as pas vécu, tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu n'es pas rendu. Et l'Église en ligne, si tu n'as pas des connexions dans une église locale, j'oserais même aller plus loin que ça. Si tu viens à l'église le dimanche, puis tu es dans cette triste situation où tu dis, écoute, ça va le dimanche, j'apprécie ça, mais je n'ai pas des relations significatives dans mon église. Je considère que c'est mon église locale, mais ça va le dimanche. À part de ça, il n'y a pas vraiment de connexion personnelle qui serve à m'édifier. Bien, notre prière, c'est que cette année, Dieu t'accorde cette grâce-là, qu'à la fin de l'année 2022, tu sois capable d'identifier des personnes, des frères et sœurs dans l'Église avec qui tu as vraiment des connexions. Que ce soit dans un groupe connexion, que ce soit en servant un ministère, que ce soit simplement quelqu'un que tu as rencontré ici, vous êtes liés d'amitié, vous allez prendre des cafés ensemble, vous allez marcher ensemble, vous jaser ensemble, peu importe le contexte ou la forme, des relations significatives qui servent à s'encourager, où je peux partager mes combats, partager mes difficultés, être sensible, être à l'écoute. Le Seigneur Jésus nous a donné la plus belle illustration pour nous présenter l'Église lorsqu'il nous a dit que l'Église était comme une vigne. Puis il a dit, « Moi, je suis le cep, je suis le tronc, puis vous, vous êtes les branches, les sarments. » Et Christ est en train d'illustrer par ça le fait qu'on ne peut pas grandir si on n'est pas en communion avec lui. Si on ne demeure pas attaché à lui, si je ne cherche pas cette connexion-là, constante avec lui, je ne pourrai pas porter du fruit. Je vais aller un petit peu plus loin encore en disant, c'est intéressant que dans cette vigne-là, et toutes les branches sont connectées aussi ensemble, d'une manière ou d'une autre. Et donc, on a besoin aussi de cette vie-là. On a besoin d'être connecté à Christ, d'où origine toute notre vie spirituelle. Et on a besoin d'être interconnectés les uns aux autres si on veut grandir en lui. Lorsqu'on a lancé le thème de cette année, le 23 février, on était dans la lettre aux Hébreux, puis on a regardé ensemble Hébreux 10, 19 à 25. Il y a beaucoup à voir dans ce passage-là. Et ce matin, on retourne dans le même passage pour s'arrêter seulement sur le verset 24. Puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, le contexte d'Hébreux 10, 19 à 25, c'est cette idée qu'on a un libre accès à Dieu. À cause de ce que Jésus-Christ a fait en mourant sur la croix, il meurt sur la croix pour nos péchés. Si je place ma foi en lui, mes péchés sont pardonnés, j'ai un libre accès à Dieu. Tous les jours, à chaque instant, à chaque minute, je peux m'adresser à lui. Je sais qu'il m'accueille à cause de l'œuvre de Christ en ma faveur. Christ a payé pour mes péchés. Et donc, je peux m'approcher de Dieu en vertu de ce que Jésus a fait, pas en vertu de mes performances. Ah, je suis poche comme chrétien. Super, tu viens de te qualifier pour t'approcher de Dieu. Tu reconnais que tu n'es pas à la hauteur. Parfait. C'est Christ qui est parfait. Toi, tu ne l'es pas. Tu peux t'approcher de lui. Mais ce passage-là ne nous parle pas simplement de notre accès à Dieu. Ce passage-là nous dit aussi, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Et il y a ce verset merveilleux qui dit, « Veillons les uns sur les autres pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Puis on va aller explorer ce verset-là ensemble ce matin. Allons dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous as ouvert une voie pour s'approcher de toi, pour venir connecter avec toi et ton Père par la puissance de l'Esprit qui vient faire sa demeure en nous. Seigneur, hier, je suis allé marcher, je suis allé prendre une marche au parc, puis j'ai passé 40 minutes à parler avec toi, à te partager mes craintes, mes doutes, mes joies, à retrouver cette connexion avec toi où mon cœur vient s'apaiser parce que je prends le temps qu'il faut dans la prière pour commencer à prier vraiment. Ça m'a fait du bien. Je sais, Seigneur, que j'ai accès. J'ai accès à toi, Seigneur. Seigneur, l'Église, c'est aussi nos connexions entre nous. Tu sais, Seigneur, combien je suis tellement reconnaissant des relations que tu m'as données dans l'Église. Elles sont essentielles à ma maturité, à ma persévérance, à ma croissance. Je suis reconnaissant, Seigneur, de voir des centaines de personnes qui ont des relations comme ça significatives, où on peut prendre soin l'un de l'autre pour grandir. Et je suis conscient aussi, Seigneur, que plusieurs n'ont pas de telles relations. Et ils peuvent se sentir seuls au milieu de la famille de Dieu, au milieu de l'Église, Seigneur. Notre prière, c'est que tu nous donnes à chacun d'entre nous d'avoir des relations semblables, Seigneur, où on peut veiller, on peut prendre soin. Et je te prie, Seigneur, si quelques personnes ce matin sont ici, vont entendre l'Évangile, mais n'ont pas emprunté cette voie vers Dieu à travers toi, Jésus, viens ouvrir les yeux de leur cœur pour que ce que tu as accompli en leur faveur à la croix, Seigneur, devienne limpide et qu'ils s'approchent du Père par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Hébreux 10, au verset 19 jusqu'à 25, dans la nouvelle édition de Genève. Hébreux 10, au verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. »
Merci. Est-ce que vous connaissez l'expression « can't live with them, can't live without them » Vous connaissez ça? On ne peut vivre avec, on ne peut vivre sans. Les gars s'en servent pour parler des filles, les filles pour parler des gars. On ne peut pas vivre sans elle, mais on ne peut pas vivre avec elle. Moi, je pense que c'est vrai pour tous les êtres humains. On a tous des moments où c'est comme t'as un appétit, t'as besoin de voir des gens. Il y en a que c'est les grandes foules, ceux qui sont très, très, très people, très extrovertis. Ils ont besoin de retrouver la foule, ça leur fait du bien. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus solitaires, un peu plus réservés. Un petit café, juste aller prendre une marche, mais on a besoin de ces connexions-là. Puis là, il y a des moments où c'est comme, OK, j'en peux plus des êtres humains. Tout serait parfait s'il n'y avait pas d'êtres humains, tu sais. Puis là, tu veux juste aller dans ton coin seul. Les Écritures nous disent qu'on ne peut pas grandir dans notre foi sans avoir ces relations les uns avec les autres où on porte attention l'un à l'autre. On est attentif l'un à l'autre. On cherche ce regard qu'on va déposer ou je vais écouter, je vais vouloir connecter, je vais vouloir prendre soin de la personne. Et dans le passage de ce matin, bien, le verset dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres ». Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Dieu nous a donné la plus grande motivation à aimer et à faire du bien autour de nous dans l'Évangile. C'est à nous, à présent, à connecter ensemble pour se motiver les uns les autres. C'est comme si on a tout, mais si on ne connecte pas ensemble, on n'arrivera pas à puiser dans la puissance de l'Évangile. À cause de l'Évangile, cherchons comment nous motiver les uns les autres au bien. Je vous rappelle le passage, versets 19 à 22. « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, le sacrifice de Christ sur la croix. » C'est ça qu'on va célébrer tantôt avec le repas du Seigneur. « Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus-Christ. » Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Si tout ça c'est mêlant, allez écouter le message du 23 février, d'accord? On est tous appelés à s'approcher de Dieu. Alors, je tiens à dire ceci au début du message. Si tu ne t'es pas approché de Dieu, si tu n'as pas tourner tes regards vers Christ, cet accès auprès de Dieu ne t'est pas assuré. Si tu n'es pas chrétien, ce n'est pas que Dieu n'entend pas tes prières. Ce n'est pas que Dieu ne répond pas à tes prières. Mais tu n'as aucune assurance. Parce que notre assurance se trouve dans ce que Jésus-Christ a fait. J'ai appris à connaître Dieu à travers ce que Jésus m'a fait connaître de lui. Et j'ai l'assurance que Dieu m'aime et que Dieu m'accueille à cause du sacrifice de Christ. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que tout ce qui va suivre aussi demande d'être sensible à ça. Il est dit de veiller les uns sur les autres, mais le contexte, c'est vraiment dans l'Église. Faites attention de vous attendre d'un ami qui n'est pas chrétien ou d'un enfant qui n'est pas chrétien de porter ces fruits-là. Assurez-vous d'être très gracieux puis vous concentrer sur le message de l'Évangile. Mais je t'invite, si tu n'as pas déjà embrassé la foi en Christ, il faut que tu explores l'Évangile. On se prépare à célébrer Pâques. Il faut que tu explores ce que Jésus est venu faire. C'est incomparable. Ce n'est pas pour parler en mal d'autres religions, simplement pour dire qu'il n'y a personne dans aucune religion, sinon le christianisme, qui a compris que Dieu nous aimait au point de venir mourir sur la croix pour nos péchés. S'assurer que notre rapport avec Dieu est un rapport de grâce. Et je t'invite à te tourner vers Christ pour avoir ce libre accès à Dieu. Maintenant, ce que l'auteur nous dit ici, c'est qu'on est appelé à avoir des rapports les uns avec les autres, des relations intimes. Il nous dit que l'Église, ce n'est pas simplement écouter des messages, ce n'est pas simplement grandir en écoutant des messages, en venant à l'Église, en recevant de la louange. L'Église, c'est des relations. Dieu donne à l'Église des pasteurs pour enseigner la parole de Dieu. Dieu donne à l'Église des enseignants. Je peux écouter des messages, je peux écouter des podcasts. Maintenant, c'est infini. Je peux lire des livres. Mais ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de nous dire ici, c'est qu'on a besoin des relations où on jette un regard l'un sur l'autre, de compassion, de grâce, pour s'encourager, pour s'exciter, pour se stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. J'aimerais ça vous lire simplement quelques lignes d'une introduction d'un excellent livre. Si vous n'avez pas lu ça, « Prendre soin les uns des autres », à notre table de livres, on l'a régulièrement, mais ça vous aide à comprendre un peu c'est quoi les relations. Puis comment on cherche à prendre soin les uns des autres, puis qu'est-ce qu'on a en tête lorsqu'on parle de connecter les uns avec les autres? Ed Welch dit, « Notre appel consiste à nous occuper mutuellement de nos âmes. Nous voulons présenter nos problèmes au Seigneur et les uns aux autres. » Donc, pas seulement à Dieu, mais les uns aux autres. « Ainsi, l'Église sera fortifiée et la sagesse et l'amour seront présentés au monde. » Or, puisque nous faisons tous face à des difficultés personnelles, nous pourrions être tentés de laisser des personnes plus qualifiées, des experts, c'est le terme à la mode depuis quelques années, des experts s'occuper des problèmes des autres. Cependant, le royaume de Dieu opère d'une manière inusitée. En effet, ce sont les humbles et les faibles qui y accomplissent la part la plus considérable du travail pastoral. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, on lit ceci. « Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Il dit qu'il a donné les pasteurs afin d'équiper l'Église à faire l'œuvre du ministère. Les bergers, les enseignants font l'œuvre du ministère, c'est vrai. Ils nous forment aussi pour accomplir la même tâche. Il semble que Dieu prenne plaisir à se servir de gens ordinaires qui, au moyen de gestes d'amour ordinaires, deviennent les principaux acteurs dans la croissance en maturité de son peuple. Si un chrétien met sa confiance en Jésus et non en lui-même, s'il se sent faible et incompétent, c'est alors qu'il est qualifié pour cette œuvre. Il est appelé. Et c'est de ça qu'il est question dans ce verset-là, où on est appelé à veiller les uns sur les autres, à prendre soin les uns des autres. Cherchons activement comment nous motiver les uns les autres. Puis des fois, je ne suis pas heureux avec la traduction qu'il y a dans ma Bible. Le passage dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Une version anglaise est plus près du texte grec en disant « And let us consider how to stir up one another to love and good work. » Le mot qui est là pour veiller, dans notre oreille à nous, ça peut sonner comme surveiller. Moi, je suis en train de veiller sur toi, là. Je te check. T'es mieux de marcher dans l'amour puis faire des bonnes œuvres. Je veille sur toi. Mais le mot qui est là, c'est pas ça qu'il représente. En fait, dans la lettre aux Hébreux, on a le même mot. Plus tôt dans la lettre, je vais vous le lire dans Hébreux 3, verset 1. « C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. » Il est en train de parler de Jésus. Je vous le relis, d'accord? Puis essayez de comprendre ce que le mot « considérer » veut dire ici. « C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. » C'est ce mot-là qui est là pour veiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire examiner, réfléchissez, tourner ça dans toutes les directions, méditer sur l'œuvre de Christ pour nous. Littéralement, c'est ça. Considérer. Alors, si j'avais une traduction personnelle pour le verset qu'on regarde ce matin, je dirais « Cherchons comment nous motiver les uns les autres à aimer Dieu et notre prochain à faire le bien. » L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de porter attention. L'idée, c'est d'être attentif à l'autre. Puis l'image qui me venait à l'esprit, c'est quand tu as des jeunes enfants, ça demande toute ton attention. Tu veux les stimuler à apprendre à devenir autonome. C'est ça que tu veux faire, hein? Il y a toutes sortes d'étapes dans l'autonomie, je n'irai pas dans trop de détails. Mais tu sais, il y a des étapes quand les enfants les franchissent, les parents sont vraiment contents. Puis, la première chose que tu réalises quand tu arrives à ton deuxième enfant, tu te dis, OK, il n'y a pas de recette pour cette affaire-là. C'est comme, j'ai fait ça avec le premier, on y est arrivé, ça a pris des semaines, mais ça a marché. Il dort la nuit, il va aux toilettes, puis il mange tout seul. Ouf, on est bon pour une couple d'années. Après ça, c'est l'adolescence. Mais tu sais, entre les deux, c'est correct. Là, le deuxième enfant arrive. Là, la recette ne marche plus. Là, tu réalises que chaque être humain, on est vraiment différent. Puis si je veux voir la même maturité, je veux que le même fruit se produise chez mon deuxième, mon troisième, mon quatrième enfant, la recette se ressemble, mais ce n'est pas la même. Et je vais devoir considérer, je vais devoir observer, je vais devoir l'étudier, je vais devoir le regarder, je vais devoir l'écouter, voir qu'est-ce qui marche avec lui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec lui. Puis c'est ça qu'il y a dans le passage ici. Quand il dit « veillons les uns sur les autres », il est en train de dire « considérons, regardons ». Et pas comme si j'étais au-dessus de quelqu'un, parce que c'est les uns les autres. Ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de dire ici, c'est qu'il ne suffit pas d'écouter des messages, il ne suffit pas de lire des bons livres, il ne suffit pas d'écouter des podcasts. Il faut que tu sois suffisamment en relation avec quelqu'un pour qu'il apprenne à te connaître dans ta personnalité à toi. Puis là, cette personne-là va pouvoir apprendre à te regarder, à te connaître, puis dire « lui, je le connais, puis aujourd'hui, il ne file pas. » Son visage me dit, il y a un gros sourire, mais je sais que derrière le sourire, il y a quelque chose d'autre. Ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Ça fait assez longtemps qu'on s'examine, pas qu'on surveille, qu'on considère, qu'on s'étudie, qu'on apprend à se connaître. C'est vraiment ça l'objectif. Et le but derrière ça, c'est de pouvoir se motiver. Le mot qui est là en grec parle d'exciter littéralement. C'est paroxysme qui est là en grec. Le paroxysme de quelque chose, c'est le top. Mais on est là pour, je suis là, je t'étudie, je te regarde aller, puis je vois bien que tu ne files pas aujourd'hui. Ou il y a quelque chose, il me semble, là, qui cloche. Je te connais, puis on dirait que tu n'as plus la flamme, tu n'as plus la même passion pour Dieu. On dirait que tu es triste, je te sens triste. Puis mon but, c'est quoi? C'est de t'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est vraiment pas l'idée de surveiller. Cette idée-là de veiller les uns sur les autres pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, c'est très facile de glisser dans surveiller, checker, irriter. Encore une fois, si vous avez des enfants, vous savez comment facilement, tu sais, tu veux bien faire, puis là, tu es un peu insécure, puis tu ne sais pas quelle direction il va prendre, puis là, chaque fois qu'il pourrait faire quelque chose, tu interviens, tu sais. Puis finalement, tu es en train de te faire surveiller. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus démotivant dans la vie que de se faire checker? Tu sais, quand quelqu'un dit, « Ouais, je te regarde, je pense que ce serait bon que tu recommences à faire du sport. » T'as-tu pensé à couper le sucre un petit peu? La COVID, ça a été rough, hein? Une fois, c'est correct, tu sais. Mais si à chaque fois que tu croises la personne, tu as le même commentaire, ça ne sera pas long qu'il n'entend plus rien. En fait, tout ce qu'il entend, c'est « Regarde, je pense qu'on va se revoir dans 2 mois. » On peut écarter nos lunchs, j'ai moins de temps de ce temps-ci pour qu'on se voit. Je n'ai pas vraiment de temps pour entendre ces sermons-là. C'est très facile de glisser, hein? Ça vient du même endroit, le motif est le même. Je veux t'encourager, je suis inquiet, je suis préoccupé, je veux te passer un message. Bien, je répète le même message tout le temps. Puis, c'est pas que surveiller ne fonctionne jamais. La surveillance policière a une certaine efficacité. Je veux dire, nos routes, ça va? C'est rare quand même qu'il y a quelqu'un qui passe à 180 à côté de toi. Surveillance policière, tu sais. Donc, surveiller, ça a sa place. La loi a sa place. Mais te motiver à l'amour puis à faire le bien avec générosité. C'est ça, des bonnes œuvres, ça vient à quelque part d'un bon fond, puis je suis en train de faire du bien, puis faire du bien, puis faire du bien. Surveiller, ça ne marche pas tellement, tu sais. Ouais, hein, je vois que tu n'aimes pas tellement le Seigneur. Tu n'as pas de l'air très, très fidèle dans ton culte personnel. Aïe, aïe, tu viens de le motiver solide, là. Il a vraiment le goût. Écoute, il faut que tu aimes ton frère. Tu sais, des parents là, qui se fâchent. Tu sais, quand tu le fais gentiment, ça ne donne pas de résultat, tu pètes une coche. Là, tu viens de le motiver à l'amour, à fond, là. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas de surveiller les uns les autres. C'est de porter attention afin de stimuler, d'encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. Et notre prière, c'est qu'à l'espoir, tout le monde ait des relations de ce genre-là. Que tout le monde puisse dire, je suis en train de t'écouter Yannick, puis moi je pense à lui, je pense à elle, je pense à lui, dans mon groupe Connexion, dans un ministère, lorsqu'on est en train de servir, lorsqu'on va prendre une marche, lorsqu'on va prendre un café, à la jeunesse, peu importe le contexte. Mais dans l'église locale, pour que cette église soit ton église locale, concrètement, là, ça veut dire qu'il y a des relations comme ça qui sont là. Où il y a des gens que tu le sais qui t'ont à l'œil, mais tu sais que ce n'est pas pour te checker. C'est parce qu'ils t'aiment. Puis ils sont attentifs. Puis là, ils disent, il me semble que tu n'as plus l'étincelle On va-tu prendre un café ensemble? Veillons les uns sur les autres pour s'exciter, pour se motiver. Et ça demande d'être attentif, ça demande du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut que j'aie du temps de disponible pour apprendre à te connaître. Puis on est tous différents. Puis il y a des choses qui vont en motiver un autre, puis l'autre, ça va tellement le démotiver. Il y en a qui sont stimulés par ça, puis d'autres, écoute, ça les refroidit. Il y en a qui ont besoin juste que tu leur donnes un conseil. Là, ils passent à l'action. Il y a des gens qui écoutent les messages, là. Si je n'ai pas 3 call to action à la fin du message, ils disent, « Ouais, je ne sais pas, il n'y avait pas grand-chose un matin. » Il y en a d'autres, si tu fais juste ça, ils disent, « Écoute, c'est juste des choses à faire. Moi, j'ai besoin comme de, oh, d'être en amour avec Jésus, puis de dire, il est merveilleux. » On est tous différents. Puis dans un exposé biblique, dans une prédication, bien, à quelque part, tu es là, tu te prépares, tu dis, « OK, Seigneur, faut que j'atteigne tout le monde. » Non, ça se passe dans les relations, ensemble. Est-ce que tu as des relations comme ça dans l'Église de l'Espoir? Si c'est ton Église locale, je prie, je supplie Dieu que tu aies des relations semblables. Si tu n'en as pas, ce n'est pas la fin du monde. On va prier pour que tu en aies, qu'il y ait des relations comme ça qui se développent, parce que c'est extrêmement précieux. Personnellement, là, j'ai des dizaines de relations comme ça dans l'Église. Il y en a qui sont plus près, qui me voient plus souvent. Ils me piffent avant que j'ouvre la bouche. Il y en a d'autres, ils ne me connaissent pas encore à ce point-là, mais ils viennent. Ils viennent pour prendre soin, ils viennent pour connecter. C'est tellement précieux. Tellement précieux. Et le but de ça, c'est de s'exciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Motivons-nous à l'amour de Dieu et des gens. Puis évidemment, dans le contexte, le motif absolu, quand tu veux encourager quelqu'un à ranimer son amour pour Dieu puis les gens autour de toi, le contexte est clair, c'est l'Évangile. C'est toujours de revenir à l'Évangile. C'est pour ça qu'on cherche à être une église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. C'est le motif absolu. C'est le motif absolu pour aimer Dieu. C'est le motif absolu pour aimer mon prochain. Entre Dieu et moi, il y a l'Évangile de Jésus-Christ. Et entre toi et moi, il y a l'Évangile de Jésus-Christ. Puis quand l'Évangile est là au centre, cette motivation-là vers l'amour, vers la grâce, à pardonner, à s'aimer, à être charitable, à remettre tous les compteurs à zéro puis dire on avance ensemble. Quand l'Évangile est là entre toi et moi, c'est la même chose que lorsque l'Évangile est là entre Dieu et moi. Je suis motivé, c'est le motif par excellence. C'est l'Évangile. Dans Jean 13, verset 34, 35, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est l'amour de Christ pour nous qui est notre motif pour aimer Dieu et pour aimer notre prochain. On revient toujours là. Je reviens toujours à l'Évangile. Le matin, quand je me réveille, je me retourne à l'Évangile. Quand mon cœur s'en va ailleurs, j'ai un frère qui m'accroche et il me dit, « Yannick, il me semble que l'Évangile est plus au centre de ta vie. Oh. » C'est le motif par excellence. Et ce qu'on cherche à exciter, à produire dans la vie les uns des autres, c'est vraiment l'amour. On ne cherche pas à produire des chrétiens qui suivent le pattern, qui se comportent comme des chrétiens. On ne cherche pas à produire des comportements. On cherche à éveiller l'amour. Intéressant, dans Romains 12, versets 9 et 10, l'apôtre Paul dit « Que l'amour soit sans hypocrisie. » C'est tellement facile pour nous de juste comme mettre un masque puis suivre nos routines. Puis on a l'impression que c'est moins de travail, c'est plus reposant. Mais c'est pas ça qu'on veut. On ne cherche pas à produire des gens qui ont de l'air des chrétiens. On ne cherche même pas à produire des gens qui se comportent comme des chrétiens, mais qui ont perdu leur premier amour. Non, on cherche à exciter dans la vie les uns des autres un véritable amour. Et ça demande de la délicatesse, ça, là. Ça ne se fait pas avec une tape en arrière de la tête. Comment est-ce qu'on fait Parce que le verset ne dit pas grand-chose. Hein? Le verset dit « Veillons les uns sur les autres pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Mais encore, comment on fait ça? Considérons-nous les uns les autres, soyons attentifs, regarde comment il va, comment est-ce qu'elle va, tout ça, puis pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais je vous dirais, tu prends ce verset-là, puis après ça, tu vas puiser dans toute la Bible. Parce que toute la Bible t'apprend à faire ces choses-là. Alors, juste pour être concret ce matin, pour être pratique, comment est-ce que je peux t'encourager, te motiver à l'amour? Comment tu peux le faire avec moi? Comment on peut le faire entre nous? Bien, en aimant. En aimant. Quand je suis devenu chrétien, moi, les relations entre les gars, c'était comme, c'était très simple, c'était très carré, puis c'était très froid. Puis là, j'arrive dans l'église, puis là, les gars sont là, puis ils se font des accolades. Je suis tombé dans le clan gagné. Écoute, c'est quelque chose, tu sais. Mais là, sais-tu quoi? Au début, c'était comme, voyons, lâche-moi. C'est vrai, je vous dis, c'était ça ma réaction. Puis là, après ça, c'est, hey, sais-tu, c'est agréable, cette affaire-là. Donc, on m'a appris à être affectueux, à aimer en m'aimant, en exprimant de l'amour envers moi. Quand on vient à l'Évangile, on vient de toutes sortes de backgrounds, de toutes sortes d'arrière-plans, hein, puis on n'a peut-être pas appris ça. Peut-être tu l'as appris, mais peut-être tu ne l'as pas appris. Comment est-ce qu'on motive à l'amour? C'est en aimant puis en exprimant de l'amour. Et si tu trouves que quelqu'un que tu aimes dans l'Église ne va pas bien, tu sens que son amour pour Dieu s'est refroidi, la première chose que tu dois faire, c'est vraiment t'appliquer à l'aimer puis à lui dire que tu l'aimes. C'est ça que tu dois faire. Avant de dire n'importe quoi d'autre, avant de dire, écoute, ça n'a pas l'air d'aller avec le Seigneur de ce temps-là. Hein? C'est-tu clair qui sait que tu l'aimes avant que tu dises ça? Autrement, tais-toi puis prie, là. Tu as besoin de trouver comment tu vas y exprimer ça. Concrètement, en aimant, en exprimant de l'amour. Une autre manière d'éveiller, de ranimer l'amour pour Dieu et pour le prochain, c'est de souligner dans la vie de l'autre des évidences de la grâce de Dieu. Voici ce que je vois que Dieu est en train de faire à travers toi actuellement. Écoute, si personne ne le fait avec toi, le fais-le avec quelqu'un et tu vas voir le résultat. C'est incroyablement encourageant. C'est tellement plus encourageant que « Hey, t'es vraiment hot, t'es en train de grandir. » C'est correct, ça, mais c'est moi. Et quand quelqu'un vient me dire « Yannick, dans tel domaine dans ta vie, c'était dur pour moi avant de voir en quoi tu ressemblais à Christ, puis t'as tellement changé. T'as tellement changé dans ce domaine-là. » Souligner les évidences de la grâce dans la vie des autres. Je vous dis, ça stimule une reconnaissance, un amour envers Dieu. En écoutant. Comment tu fais pour ranimer l'amour dans la vie de quelqu'un? En écoutant. Si tu parles avec quelqu'un, la personne est remplie d'amertume. Là. Parle de son collègue de travail, il est en joie le vert. Il est fâché, puis il est rempli d'amertume. Écoute-le. L'expression de la colère puis l'amertume ne survit pas éternellement à une oreille qui écoute. Je vous le dis, ça se guérit presque tout seul. Fais juste écouter. Puis dire, écoute, je prie pour toi, je sais que ce n'est pas facile. Puis continue à écouter. Va pas lui dire, ouais, t'as de l'air vraiment amer, hein? Écoute, il y en a qui en ont eu des pires. T'es pas en Ukraine? Wow! Fais juste écouter. Devant quelqu'un qui n'est plus dans l'amour, mais qui est dans l'amertume, quelles que soient les circonstances, fais juste l'écouter. Tu sais, dans le fond, c'est ça la faute des amis de job, hein? Tout allait bien jusqu'à temps qu'ils parlent. C'était les meilleurs amis du monde tant qu'ils n'ont pas ouvert la bouche. Ils ont juste parlé trop tôt. Puis là, à un moment donné, quand tu écoutes assez longtemps, la voix descend, puis là, la personne... Si c'est un enfant de Dieu, elle commence à se prêcher un sermon elle-même. Ouais, je sais que c'est pas ça que le Seigneur veut faire en moi, tu sais. Je sais qu'il veut m'amener ailleurs, tu sais. Yes. Continue à écouter. Fais juste l'encourager. Le Saint-Esprit habite en lui. en aimant, en exprimant de l'amour, en soulignant et en manifestant les évidences de la grâce dans la vie de la personne, en écoutant constamment, en se rappelant l'Évangile les uns aux autres. Eugene Peterson, un excellent pasteur, disait souvent pour régler les conflits, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ramener l'Évangile dans la conversation. Il faut juste ramener l'Évangile là. Juste, veux-tu, on va se rappeler l'Évangile. Je sais que tu souffres, je ne vais pas te faire un sermon. Veux-tu, on va se rappeler ensemble l'Évangile, ce que Christ a fait pour nous. Puis des fois, c'est en invitant quelqu'un à servir avec toi, dans des œuvres de compassion. La personne a perdu son feu pour Christ, a perdu son amour pour son prochain. Des fois, il faut arrêter aussi de parler, puis juste passer à l'action, puis dire, « Viendrais-tu m'aider? Je suis impliqué à tel endroit, je vais aller aider telle personne. » Puis là, son cœur se ranime en aidant des gens dans le besoin. Mais on doit être là à veiller les uns sur les autres, à considérer comment on peut se motiver à l'amour et comment on peut se motiver aux bonnes œuvres, à des œuvres bonnes. Pas dans le but de gagner notre ciel, parce que notre ciel a été gagné par Christ. Et c'est l'amour qui dépasse les bonnes intentions. Le christianisme semble très, très, très hypocrite quand il n'est pas accompagné d'œuvres bonnes. Mais je vais aller plus loin que ça. Je pense que le christianisme est très hypocrite quand il n'est pas accompagné d'œuvres bonnes. Il y a un passage qui est un petit peu hors contexte. Vous viendrez me dire que c'est hors contexte, c'est correct. Dans 2 Corinthiens 8, versets 11 à 13, on lit ceci. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler parce que les Corinthiens avaient exprimé le désir de donner pour aider des gens qui étaient dans le besoin et tout ça. Puis il dit ceci, « Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle a à sa disposition. » Fait que les bonnes intentions ne suffisent pas. Je ne vais pas promettre des choses que je ne peux pas livrer, entre autres mots, c'est ça qui est dit. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas. « Hey, je vais prier pour toi. Hein? »« Oh, mais il y a peut-être besoin que tu ailles l'aider. » Tu sais. Alors, on est appelé à s'encourager à passer à l'action. À l'amour, qui est le vrai motif. On ne veut pas de bonnes œuvres ou d'œuvres bonnes sans amour. Mais vraiment à passer à l'action, vraiment à être concret. Vous savez, lorsqu'on a partagé ce que certaines familles ukrainiennes sont en train de faire pour aider les gens de leur famille, de leur église, tout ça s'en venait, qu'est-ce que ça a produit en vous quand on a partagé ça? Vous allez dire, c'est extraordinaire. Oui, mais c'est une situation extraordinaire. On parle d'une guerre, là. D'accord? Mais ces œuvres-là qu'ils sont en train de faire, ça fait quoi en vous? Ça nous stimule, ça nous inspire à notre tour à faire de bonnes œuvres qui vont porter le parfum de Christ. C'est Jésus qui dit dans Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » On est appelé à s'encourager, à ne pas avoir une religion avec Dieu qui se résumerait à une relation avec Dieu, mais qui ne se traduit jamais en action. Qui est fausse, qui n'est pas vraie. Ce n'est pas vrai parce que c'est juste du bout des lèvres qu'on aime, mais quand il y a un prix à payer pour aimer, on n'est pas prêt à le faire. Et comment est-ce qu'on s'encourage les uns les autres à grandir? Comment est-ce qu'on se stimule? En partageant des histoires. En partageant des histoires d'œuvres bonnes. Quand on vous a partagé ce que ces familles-là sont en train de faire, mais tout le monde a le goût de le faire. Puis quand je partage ça avec d'autres pasteurs, ils me disent, « Écoute, il faut que je partage ça avec mon église. » Donc, juste en partageant des œuvres que d'autres sont en train de faire, puis en les racontant. Puis lorsqu'on fait ça, on est en train de s'encourager à passer à l'action, à aider, en donnant l'exemple. Vous ne voulez pas que vos enfants soient des petits religieux? Assurez-vous que vos actions sont à la hauteur de ce que vous dites avoir comme amour pour Dieu. En donnant l'exemple, c'est tellement inspirant. Ce matin, je vais terminer en vous donnant plein d'exemples dans l'Église. Je vais nommer un paquet de monde ce matin, puis je vais donner des exemples, puis vous allez voir comment c'est inspirant. En célébrant des œuvres extrêmement banales, quand on pense à des bonnes œuvres, on dirait qu'on pense toujours aux choses extraordinaires. Mais il faut apprendre à célébrer des choses très, très banales du quotidien. Dans le fond, ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de dire, il est en train de dire, fais des œuvres que tu n'aurais pas faites avant de connaître Christ. Et donc, ça peut être extrêmement banal, mais il faut les souligner. Puis enfin, en invitant des gens à nous aider. Une des plus belles manières que tu peux le faire, c'est en invitant des gens à t'aider. J'ai déjà partagé avec l'Église, puis je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. J'ai déjà partagé avec l'Église l'année où je me suis converti, 18-19 ans, ma femme vous le dira. Mes parents partaient en mission court terme à l'île de la Réunion. Ils étaient un petit peu insécures, je pense, avec le fait que « Es-tu sérieux? Ça va-tu bien se passer? On part plusieurs mois. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On avait JBEC qui venait à l'époque. C'était un groupe missionnaire avec des jeunes du Québec qui allaient de ville en ville. Puis là, ils ont dit « Nous autres, on veut avoir un JBECois chez nous. » Là, j'ai passé quelques semaines avec Jean-Paul Gagné. On s'est liés d'amitié. Puis mes parents m'ont appris, c'est ça la vie chrétienne, tu viens de te convertir, regarde, nous autres, on part en mission. Puis toi, tu vas accueillir un missionnaire. Puis tu vas aller faire de l'évangélisation avec eux. Là, Jean-Paul m'invitait à aller avec eux faire de l'évangélisation. On allait dans les parcs, on allait annoncer l'Évangile. Invitez quelqu'un à faire des œuvres bonnes avec vous. Alors, j'aimerais ça terminer ce matin en vous partageant des gens qui m'édifient, qui m'encouragent. Madeleine Bérubé, si vous ne la connaissez pas, puis vous avez le goût d'être écoutée, allez voir Madeleine. Juste avec ses yeux, vous savez déjà que vous allez pouvoir parler. Madeleine sait écouter. Suresh, qui sert à la technique alors qu'il est encore en train d'essayer de démêler le français. Il parle indien, je ne sais pas quel dialecte, je ne veux pas t'insulter Suresh. Il parle l'anglais très très bien, mais le français, il est en train de l'apprendre, puis il fait des progrès. Mais il servait alors qu'il n'y avait aucune maîtrise du français. Josué puis Timothée Marcil, qui servent à la technique, qui viennent nous aider, puis ils sont en train de servir des modèles pour moi. Florence Richard, qui est des fois à l'accueil, puis qui nous salue. Quel que soit ton âge, tu es là, puis ça nous fait du bien, ça m'inspire. André Larue, qui après avoir été 23 ans secrétaire empoché à l'Église de l'Espoir, vient tous les vendredis faire du bénévolat pour faire du secrétariat. C'est quand même incroyable. Gilles Berthiaume, qui, malgré ses défis de santé extraordinaires, accompagne des gens sur Internet pour les aider à comprendre l'Évangile, à cheminer dans leur foi. Léa Hamel, qui trimballe toute sa marmaille, puis je la vois tellement aimer ses enfants, puis tu le vois que c'est une maman qui... C'est ça, sa mission est en train de prendre soin de ses enfants. Voyez-vous comme c'est simple, mais comme c'est inspirant? On est appelé à l'Église de l'Espoir à connecter ensemble pour grandir. Puis on a besoin de relations où on n'est pas en train de se checker l'un l'autre, mais on est en train de se considérer, de regarder l'autre, de connecter ensemble pour que j'apprenne à te connaître puis dire, toi, tu as besoin d'encouragement de ce temps-ci. Puis je veux le faire, je veux venir te motiver à te rapprocher de Dieu puis à faire des œuvres bonnes pour la gloire de Dieu. Et si tu n'as pas des relations comme ça, bien Dieu va répondre à nos prières. Joins-toi à nous dans la prière, puis Dieu va t'en donner. Parce qu'il y en a des centaines ici à l'Église de l'Espoir, des relations comme ça. Puis si tu en as, chéris-les, puis va remercier les gens qui ont cet impact-là dans ta vie. C'est tellement précieux pour grandir ensemble. On va prier. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence, on se prépare à prendre le repas du Seigneur. C'est le plus grand témoignage d'amour qu'on pouvait avoir, c'est l'inspiration, la motivation absolue, c'est ton œuvre à toi, Jésus. Seigneur, je veux te prier pour l'espoir où moi j'ai le privilège de grandir depuis 30 ans, puis d'être aimé, puis d'avoir des amitiés dans la foi, des relations qui me stimulent, qui me challenge, qui me motive. Des relations gracieuses où gentiment on me ramène à l'Évangile, avec beaucoup d'écoute, avec beaucoup de grâce, Seigneur. Et notre prière, c'est que tout le monde ici vive ça. Que personne ne soit laissé pour compte parce qu'il serait malhabile, parce qu'il serait maladroit. Seigneur, viens donner à chacun des relations semblables. C'est ton plan à toi, c'est là dans ta parole. Veillons les uns sur les autres pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est dans ton plan, Seigneur. Alors, entends nos prières et que cette Église soit remplie de telles connexions, Seigneur, qui vont nous garder vraiment focussés sur toi, Seigneur, à te regarder toi, à t'aimer toi, Seigneur, puis qui vont nous garder à te servir. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.